Bienvenue, chers auditeurs, dans Actualité du Pape. Nous allons nous consacrer pendant cette actualité, tout comme la prochaine, à la déclaration Dignitas Infinita, une infinie dignité consacrée à la dignité humaine. Voici une introduction que nous avons prise sur le site Zenitrom. Après avoir reçu l'accord du pape François, le dicaster pour la doctrine de la foi a publié ce lundi 8 avril 2024 une déclaration importante sur le respect de la dignité humaine, intitulée « Dignitas Infinita, une dignité infinie ». Elle est signée par le préfet du dicaster, le cardinal Victor Manuel Fernandez. Constituée d'une vingtaine de pages, « Dignitas Infinita » est le fruit de 5 années de travail. Le texte aborde des questions morales essentielles, mais également quelques questions sociétales. Après avoir expliqué de manière théorique le concept de la dignité humaine, la déclaration donne une liste non exhaustive de violations graves à la dignité humaine. Tout d'abord, le dicaster dénonce la théorie du genre qui cherche à nier la plus grande différence possible entre les êtres vivants et notamment entre l'homme et la femme. Mais il condamne également la gestation pour autrui, la GPA, en rappelant que l'enfant devient alors un simple objet. Le texte aborde ensuite l'avortement et rappelle que le magistère de l'Église s'est toujours prononcé contre l'avortement. Toute vie est sacrée en toute phase de son développement. Il parle également de l'euthanasie et du suicide assisté comme un cas d'atteinte à la dignité humaine et insiste sur le fait que la souffrance ne fait pas perdre à la personne malade sa dignité. D'autres sujets sont abordés dans ce vaste document, le scandale des violences contre les femmes, la face sombre d'Internet et des réseaux sociaux, ainsi que la question de la dignité sans condition des personnes handicapées. Est abordée enfin la question des abus sexuels, phénomène qui touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission. Le document énumère d'autres injustices souvent abordées par le pape François qui portent atteinte à la dignité humaine telles que l'extrême pauvreté dans le monde, les guerres, l'exploitation des migrants ou encore la traite des personnes. Dans cette actualité du pape, comme je vous l'ai dit, nous allons lire en grande partie « Dignitas Infinita ». Nous reprendrons le cours des catéchèses habituels du Saint-Père, le pape François, lors des prochaines émissions. Déclaration « Dignitas Infinita » sur la dignité humaine. Introduction. « Dignitas Infinita », une infinie dignité. Inéliablement fondée dans son être même, appartient à chaque personne humaine en toutes circonstances et dans quelque état ou situation qu'elle se trouve. Ce principe, pleinement reconnaissable même par la seule raison, fonde la primauté de la personne humaine et la protection de ses droits. L'Église, à la lumière de la Révélation, réaffirme et confirme sans réserve cette dignité ontologique de la personne humaine, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et rachetée dans le Christ Jésus. C'est de cette vérité qu'elle tire les raisons de son engagement vers les plus faibles et les moins dotés de pouvoir, en insistant toujours sur le primat de la personne humaine et la défense de sa dignité en toutes circonstances. Cette dignité ontologique et la valeur unique et éminente de chaque femme et de chaque homme qui existe dans ce monde ont été reprises avec autorité dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre 1948, par l'Assemblée générale des Nations unies. En commémorant le 75e anniversaire de ce document, l'Église voit l'occasion de proclamer à nouveau sa conviction que, créé par Dieu et racheté par le Christ, tout être humain doit être reconnu et traité avec respect et amour, précisément en raison de sa dignité inaliénable. L'anniversaire susmentionné fournit également à l'Église l'occasion de clarifier certains malentendus qui surgissent souvent au sujet de la dignité humaine et d'aborder certaines questions concrètes, sérieuses et urgentes qui s'y rapportent. Dès le début de sa mission, poussée par l'Évangile, l'Église s'était forcée d'affirmer la liberté et de promouvoir les droits de tous les êtres humains. Ces derniers temps, grâce à la voix des pontifes, cet engagement a été formulé de manière plus explicite à travers l'appel renouvelé à la reconnaissance de la dignité fondamentale de la personne humaine. Saint Paul VI disait « Aucune anthropologie n'égale celle de l'Église sur la personne humaine, même en tant qu'individu, sur son originalité, sa dignité, l'intangibilité et la recherche de ses droits fondamentaux, son caractère sacré, éducable, son aspiration à un épanouissement total, son immortalité. Saint Jean-Paul II, en 1979, lors de la troisième conférence épiscopale latino-américaine à Puebla, a déclaré « La dignité humaine est une valeur évangélique qui ne peut être méprisée sans offenser gravement le Créateur. Cette dignité est foulée aux pieds, au plan individuel, lorsqu'on ne tient pas dûment compte des valeurs comme la liberté, le droit de professer sa religion, l'intégrité physique et psychique, le droit aux biens essentiels, à la vie. Elle est foulée aux pieds au plan social et politique lorsque l'homme ne peut exercer son droit de participation ou est soumis à des contraintes injustes et illégitimes ou à des tortures physiques, psychiques. Si l'Église se rend présente dans la défense ou dans la promotion de la dignité de l'homme, elle le fait dans la ligne de sa mission qui, tout en étant de caractère religieux et non social ou politique, ne peut pas ne pas considérer l'homme dans l'intégralité de son être. » En 2010, devant l'Académie pontificale pour la vie, Benoît XVI a affirmé que la dignité de la personne est un principe fondamental que la foi en Jésus-Christ crucifié et ressuscité a toujours défendu, surtout lorsqu'il est négligé quand il s'agit de sujets plus simples et sans défense. En une autre occasion, s'adressant à des économistes, il a déclaré que l'économie et la finance n'existent pas pour elles-mêmes. Elles ne sont qu'un outil, un moyen. Leur fin est uniquement la personne humaine et sa réalisation plénière dans la dignité. C'est là le seul capital qu'il convient de sauver. Depuis le début de son pontificat, le pape François a invité l'Église à confesser un Père qui aime infiniment chaque être humain et à découvrir qu'il lui accorde par cet amour une dignité infinie, soulignant avec force que cette immense dignité représente une donnée originelle à reconnaître avec loyauté et à accueillir avec gratitude. C'est précisément sur cette reconnaissance et sur cet accueil qu'il est possible de fonder une nouvelle coexistence entre les êtres humains, qui décline la socialité dans un horizon de fraternité authentique. Ce n'est qu'en reconnaissant la dignité de toute personne humaine que nous pouvons faire revivre en tous une aspiration mondiale à la fraternité. Selon le pape François, cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve dans l'Évangile de Jésus-Christ. Mais c'est aussi une conviction à laquelle la raison humaine peut parvenir par la réflexion et le dialogue. Car s'il faut respecter en toute situation la dignité d'autrui, ce n'est pas parce que nous inventons ou supposons la dignité des autres, mais parce qu'il y a effectivement en eux une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement. Que tout être humain possède une dignité inaliénable est une vérité qui correspond à la nature humaine, indépendamment de tout changement culturel. En vérité, conclut le pape François, l'être humain a la même dignité inviolable en toute époque de l'histoire et personne ne peut se sentir autorisé par les circonstances à nier cette conviction ou à ne pas agir en conséquence. Dans cette perspective, son encyclique Fratelli Tutti constitue déjà une sorte de Magna Carta des tâches actuelles de sauvegarde et de promotion de la dignité humaine. Une clarification fondamentale. Bien qu'il existe aujourd'hui un consensus assez général sur l'importance et la portée normative de la dignité et de la valeur unique et transcendante de tout être humain, l'expression « dignité » de la personne humaine risque souvent de se prêter à de nombreuses significations et donc à d'éventuels malentendus et contradictions qui conduisent à se demander si l'égale dignité de tous les êtres humains est véritablement reconnue, respecté, protégé et promu en toutes circonstances. Tout cela nous amène à reconnaître la possibilité d'une quadruple distinction du concept de dignité. Dignité ontologique, dignité morale, dignité sociale et enfin dignité existentielle. Le sens le plus important est celui de la dignité ontologique qui concerne la personne en tant que telle par le simple fait d'exister et d'être voulu, créé et aimé par Dieu. Cette dignité ne peut jamais être effacée et reste valable au-delà de toutes les circonstances dans lesquelles les individus peuvent se trouver. Quand on parle de dignité morale, on se réfère plutôt à l'exercice de la liberté de la créature humaine. Celle-ci, bien que dotée d'une conscience, reste toujours ouverte à la possibilité d'agir contre celle-ci. Ce faisant, l'être humain adopte un comportement indigne de sa nature de créature aimée de Dieu et appelée à aimer autrui. Mais cette possibilité existe. Et ce n'est pas tout. L'histoire témoigne que l'exercice de la liberté contre la loi de l'amour révélée par l'Évangile peut atteindre des sommets incalculables dans le mal infligé à autrui. Lorsque cela se produit, on se trouve face à des personnes qui semblent avoir perdu toute trace d'humanité, toute trace de dignité. À cet égard, la distinction introduite ici nous aide à discerner précisément entre l'aspect de la dignité morale qui peut effectivement être perdu et l'aspect de la dignité ontologique qui ne peut jamais être annulée. Et c'est précisément à cause de cette dernière que l'on doit travailler de toutes ses forces pour que tous ceux qui ont fait le mal se repentent et se convertissent. Il existe encore deux autres acceptions possibles de la dignité, sociale et existentielle. Quand on parle de dignité sociale, on se réfère aux conditions dans lesquelles une personne vit. Dans l'extrême pauvreté, par exemple, lorsque les conditions minimales ne sont pas réunies pour qu'une personne vive selon sa dignité ontologique, on dit que la vie de cette personne pauvre est une vie indigne. Cette expression n'indique en aucun cas un jugement à l'égard de la personne, mais vise à mettre en évidence le fait que sa dignité inaliénable est contredite par la situation dans laquelle elle est contrainte de vivre. La dernière acception est celle de la dignité existentielle. Aujourd'hui, on parle de plus en plus souvent d'une vie digne et d'une vie indigne. Nous nous référons à des situations proprement existentielles. Par exemple, le cas d'une personne qui, bien que ne manquant de rien d'essentiel pour vivre, a du mal, pour diverses raisons, à vivre dans la paix, dans la joie et dans l'espérance. Dans d'autres situations, c'est la présence de maladies graves, de contextes familiaux violents, de certaines addictions pathologiques et d'autres malaises qui poussent quelqu'un à vivre sa condition de vie comme indigne, face à la perception de cette dignité ontologique qui ne peut jamais être occultée. Les distinctions introduites ici, en tout cas, ne font que rappeler la valeur inaliénable de cette dignité ontologique enracinée dans l'être même de la personne humaine et qui subsiste en toutes circonstances. Enfin, il convient de rappeler ici que la définition classique de la personne en tant que substance individuelle de nature rationnelle explicite le fondement de sa dignité. En effet, en tant que substance individuelle, la personne jouit d'une dignité ontologique, c'est-à-dire au niveau métaphysique de l'être lui-même. C'est un sujet qui, ayant reçu l'existence de Dieu, subsiste, autrement dit, exerce l'existence de manière autonome. Le mot rationnel englobe en fait toutes les capacités de l'être humain, aussi bien celles de connaître et de comprendre que celles de vouloir, d'aimer, de choisir, de désirer. Le terme rationnel comprend donc également toutes les capacités corporelles intimement liées à celles mentionnées ci-dessus. L'expression « nature » indique les conditions propres à l'être humain qui rendent possibles les différentes opérations et expériences. La nature est le principe d'action. L'être humain ne crée pas sa nature, il la possède comme un don reçu et peut cultiver, développer et enrichir ses capacités. En exerçant sa liberté de cultiver les richesses de sa propre nature, la personne humaine se construit au fil du temps. Même si, en raison de diverses limitations ou conditions, elle n'est pas en mesure d'utiliser ses capacités, la personne subsiste toujours en tant que substance individuelle avec toute sa dignité inaliénable. C'est le cas, par exemple, d'un enfant à naître, d'une personne inconsciente, d'une personne âgée, à l'agonie. Une prise de conscience progressive du caractère central de la dignité humaine. Déjà, dans l'Antiquité classique, on trouve une première perception de la dignité humaine qui s'inscrit dans une perspective sociale. Chaque être humain est doté d'une dignité particulière en fonction de son rang et au sein d'un certain ordre. De la sphère sociale, le mot est passé à la description des différentes dignités des êtres présents dans le cosmos. Dans cette optique, tous les êtres possèdent leur propre dignité, en fonction de leur place dans l'harmonie du tout. Certes, certains sommets de la pensée antique commencent à reconnaître une place singulière à l'être humain. dans la mesure où il est doué de raison, et donc capable d'assumer une responsabilité pour lui-même et les autres êtres du monde. Mais nous sommes encore loin d'une pensée capable de fonder le respect de la dignité de tout être humain, en toutes circonstances. Perspective biblique. La révélation biblique enseigne que tous les êtres humains possèdent une dignité intrinsèque, car ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. L'humanité a une qualité spécifique qui fait qu'elle n'est pas réductible à la pure matérialité. L'image ne définit pas l'âme ou les capacités intellectuelles, mais la dignité de l'homme et de la femme. L'un et l'autre, dans leur relation d'égalité et d'amour mutuel, remplissent la fonction de représentation de Dieu dans le monde et sont appelés à prendre soin du monde et à le nourrir. Être créé à l'image de Dieu signifie donc posséder en nous une valeur sacrée qui transcende toutes les distinctions sexuelles, sociales, politiques, culturelles et religieuses. Notre dignité nous est donnée. Elle n'est ni revendiquée ni méritée. Chaque être humain est aimé et voulu par Dieu pour lui-même et est donc inviolable dans sa dignité. Dans l'Exode, cœur de l'Ancien Testament, Dieu se montre comme celui qui entend le cri des pauvres, voit la misère de son peuple, prend soin des plus petits et des opprimés. On retrouve le même enseignement dans le Code deutéronomique. Ici, l'enseignement sur les droits se transforme en un manifeste de la dignité humaine, notamment en faveur de la triple catégorie de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Les anciens préceptes de l'Exode sont rappelés et actualisés par la prédication des prophètes qui représentent la conscience critique d'Israël. Des chapitres entiers des prophètes Amos, Osée, Isaïe, Michée et Jérémie dénoncent l'injustice. Amos reproche amèrement l'oppression des pauvres, le fait de ne reconnaître aucune dignité humaine fondamentale aux plus démunis. Isaïe prononce une malédiction contre ceux qui foulent aux pieds les droits des pauvres, leur refusant toute justice. Malheureux, ils rédigent des décrets malfaisants, ils inscrivent des écrits d'oppression, ils refusent de rendre justice aux faibles. Cet enseignement prophétique est repris dans la littérature de sagesse. Le Siracide assimile l'oppression des pauvres à un meurtre. C'est tuer son prochain que lui retirer la subsistance, c'est verser le sang que priver l'ouvrier de son salaire. Dans les psaumes, la relation religieuse avec Dieu passe par la défense du faible et du nécessiteux. Rendez justice au faible, à l'orphelin, faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre, arrachez-les aux mains des impies. Jésus est né et a grandi dans des conditions humbles et a révélé la dignité des nécessiteux et des travailleurs. Tout au long de son ministère, Jésus a affirmé la valeur et la dignité de tous ceux qui portent l'image de Dieu, indépendamment de leur statut social et des circonstances extérieures. Jésus a brisé les barrières culturelles et cultuelles, redonnant leur dignité à ceux qui sont mis au rebut ou considérés comme en marge de la société. Les collecteurs d'impôts, les femmes, les enfants, les lépreux, les malades, les étrangers, les veuves. Il guérit, nourrit, défend, libère et sauve. Il est décrit comme un berger attentif à une seule brebis égarée. Il s'identifie lui-même à ses frères les plus petits. Chaque fois que vous l'avez fait à un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Dans le langage biblique, les petits ne sont pas seulement les enfants selon l'âge, mais les disciples sans défense, les plus insignifiants, les exclus, les opprimés, les mis à l'écart, les pauvres, les marginaux, les ignorants, les malades, les déclassés par les groupes dominants. Le Christ glorieux jugera en fonction de l'amour envers son prochain, qui consiste à avoir assisté l'affamé, l'assoiffé, l'étranger, le nu, le malade, l'emprisonné avec lesquels il s'identifie. Pour Jésus, le bien fait à tout être humain, indépendamment des liens du sang ou de la religion, est le seul critère de jugement. L'apôtre Paul, écrivant aux Galates, affirme que tout chrétien doit se comporter selon les exigences de la dignité et du respect des droits de tous les êtres humains, conformément au nouveau commandement de la charité. Le développement de la pensée chrétienne, a ensuite stimulé et accompagné le progrès de la réflexion humaine sur le thème de la dignité. L'anthropologie chrétienne classique, fondée sur la grande tradition des pères de l'Église, a mis l'accent sur la doctrine de l'être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et sur son rôle singulier dans la création. La pensée chrétienne médiévale, examinant de manière critique l'héritage de la pensée philosophique antique, est parvenue à une synthèse de la notion de personne, y reconnaissant le fondement métaphysique de sa dignité, comme l'attestent les paroles suivantes de saint Thomas d'Aquin. « La personne signifie ce qu'il y a de plus parfait dans toute la nature, savoir ce qui subsiste dans une nature raisonnable. » Cette dignité ontologique, dans sa manifestation privilégiée à travers le libre agir humain, a ensuite été soulignée surtout par l'humanisme chrétien de la Renaissance. Même dans la vision de penseurs modernes, tels que Descartes et Kant, qui ont également remis en question certains des fondements de l'anthropologie chrétienne traditionnelle, des échos de la révélation peuvent être fortement perçus. Sur la base de certaines réflexions philosophiques plus récentes sur le statut de la subjectivité théorique et pratique, la réflexion chrétienne en est venue à souligner davantage la profondeur du concept de dignité, atteignant au XXe siècle une perspective originale, comme avec le personnalisme. Cette perspective non seulement reprend la question de la subjectivité, mais l'approfondit en direction de l'intersubjectivité et des relations qui lient les personnes humaines entre elles. La proposition anthropologique chrétienne contemporaine s'est elle aussi enrichie de la pensée issue de cette dernière approche. À l'époque actuelle, de nos jours, le terme de dignité est principalement utilisé pour souligner le caractère unique de la personne humaine, incommensurable avec les autres êtres de l'univers. Dans cette perspective, on comprend la manière dont le terme de dignité est utilisé dans la Déclaration des Nations Unies de 1948, où il est question de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables. Seul ce caractère inaliénable de la dignité humaine permet de parler de droits de l'homme. Pour clarifier davantage le concept de dignité, il est important de souligner que la dignité n'est pas accordée à la personne par d'autres êtres humains, sur la base de certains dons et qualités, de sorte qu'elle pourrait éventuellement être retirée. Si la dignité était accordée à la personne par d'autres êtres humains, elle le serait de manière conditionnelle et aliénable, et le sens même de la dignité, quoique digne d'un grand respect, resterait ainsi exposé au risque d'être aboli. En réalité, la dignité est intrinsèque à la personne. Elle n'est pas conférée a posteriori, elle est antérieure à toute reconnaissance et ne peut être perdue. Par conséquent, tous les êtres humains possèdent la même dignité intrinsèque, qu'ils soient ou non capables de l'exprimer de manière adéquate. C'est pourquoi le Concile Vatican II parle de l'éminente dignité de la personne humaine, supérieure à toute chose et dont les droits et les devoirs sont universels et inviolables. Comme le rappelle l'incipit de la Déclaration conciliaire Dignitatis Humanae, la dignité de la personne humaine est l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité. Non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. Cette liberté de pensée et de conscience, tant individuelle que collective, est fondée sur la reconnaissance de la dignité humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Le magistère ecclésial lui-même a de plus en plus mûri le sens de cette dignité, ainsi que les exigences et les implications qui y sont liées, en prenant conscience que la dignité de tout être humain est telle en toutes circonstances. Chers auditeurs, c'était Actualité du Pape. Nous avons lu une première partie de la déclaration Dignitas Infinita. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'était notre émission Actualité du Pape. Retrouvez notre émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.